L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Bourguet du collectif de l'éthique sur l'étiquette. Alors, ce collectif, du point de vue national, qui a été fondé en 1995, agit en faveur du respect des droits de l'homme au travail et dans le monde et de la reconnaissance du droit à l'information des consommateurs sur la qualité sociale de leurs achats. Et depuis sa création, donc, il demande aux entreprises présentes en France et aux grandes marques françaises et internationales de veiller aux conditions de production de leurs marchandises, de garantir que leurs pratiques d'achat favorisent le progrès social chez leurs fournisseurs et sous-traitants, et dans le domaine textile, des jouets et des articles de sport notamment. Oui. Alors, ici, localement, comment s'est constitué ce collectif ?
Alors, je rappelle aussi qu'on se bat pour le respect des conventions de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, qui sont le socle minimal de respect des droits humains au travail.
Oui, pas de travail donc des enfants, pas de travail forcé.
Exactement, et on va y venir parce qu'on va parler du travail forcé tout à l'heure à propos des Ouïghours. Alors, sur le plan montpelliérain, le collectif Éthique sur étiquette comprend la fédération Léo Lagrange, ASECO-CFDT, le mouvement pour une action non violente, Artisans du Monde, le CDTM Ritimo, donc Centre de Documentation Terre Monde, Terre des Hommes France, le CCFD Terre Solidaire, et depuis 4 ans, bientôt 5, nous avons élargi un petit peu, nous avons constitué un collectif encore plus large qui s'appelle Régulation et Transparence des Entreprises avec Oxfam et ATTAC.
Oui, alors tu as oublié le mouvement pour le désarmement, la paix et la liberté.
MDPL, oui, voilà, MDPL. Exact.
Voilà, alors c'est une caractéristique de ce collectif, puisqu'il a des associations de solidarité internationale comme membres, des syndicats, des associations d'éducation populaire et aussi des associations de consommateurs.
Exactement.
Et même des collectivités locales.
Oui, ça pourrait être le cas. Et nous sommes membres, au niveau national, de la Clean Clothes Campaign, qui est donc la CCC, qui est un réseau mondial, qui se bat également pour, dans le secteur du textile habillement, et on est en train de s'élargir un peu à d'autres secteurs industriels, pour le respect des droits humains au travail au Sud.
Oui, il y avait de toute façon une grande campagne qui avait été menée sur les articles de sport, notamment les ballons.
Oui, on se rappelle. À propos de Nike, en 1996, et Nike, il faut le savoir, avait utilisé le travail des enfants dans un certain nombre de pays pour les ballons. Donc, on s'est battu avec d'autres pour que ce travail des enfants soit prohibé et on a obtenu succès au bout de quelques temps.
Donc, cette action s'est menée depuis 1995 et quels ont été les résultats jusque-là ?
Les résultats, c'est une pression vis-à-vis des entreprises, des marques. Donc, on est en train de jouer sur leur image, de leur faire prendre conscience que, en dénonçant leur non-action pour le respect des droits humains au travail et de l'environnement, elles sont en train de perdre un peu de leur superbe auprès des consommateurs. Et donc ça, c'est un moyen de pression pour les amener à ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire un nombre de normes. J'ai parlé des normes de l'Organisation internationale du travail, mais il y en a d'autres, pour que les salaires décents, la protection sociale, etc., de manière à ce que les travailleurs du Sud cessent d'être totalement exploités comme ils le sont actuellement.
Alors, il y a une petite victoire,
Puisqu'en
France, il y a une loi.
Voilà, j'y venais, c'est aussi sur le plan législatif, parce que nous pensons que la responsabilité sociale des entreprises, on ne peut pas la laisser à la seule main des entreprises. On a vu ce que ça a donné, les codes de conduite, les chartes, les codes éthiques, etc. C'est bien. Malheureusement, c'est très insuffisant. Et en plus, les entreprises dans cette affaire sont jugées parties. Donc, les résultats sont loin d'être satisfaisants, même s'il y a quelques vrais succès. Mais nous pensons, nous, qu'il faut également que la loi vienne réguler et contraindre les entreprises à se comporter de manière éthique, c'est-à-dire de respecter finalement leurs obligations en termes de droits humains au travail et de respect de l'environnement.
Alors cette loi date de 2017, je crois.
Voilà, cette loi date du début 2017, la fin du quinquennat Hollande. Cette loi, le devoir de vigilance, donc, qui a été adoptée en mars 2017, pour laquelle nous nous étions battus depuis 2012-2013. Donc, avec un certain nombre de parlementaires, avec un certain nombre d'autres associations, nous avons finalement convaincu la représentation nationale et le gouvernement de faire cette loi, donc, qui prévoit que les entreprises de plus, les multinationales de plus de 5 000 travailleurs en France et 10 000 en France et à l'étranger se dotent d'un plan de vigilance dans l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. Parce que ces multinationales, jusqu'à présent, se réfugiaient derrière leur irresponsabilité juridique. Elles disaient, ce n'est pas nous, ce sont nos filiales et sous-traitants. Mais les filiales et sous-traitants sont aux ordres, strictement parlé, des multinationales. Donc, on parle d'ailleurs d'entreprises donneuses d'ordre. Donc, on a finalement fait accepter par le législateur l'idée que ces multinationales étaient aussi responsables de ce qui se passait en aval, hein, de ce qui se passait dans toute la chaîne d'approvisionnement. Et donc, ce plan de vigilance s'applique à toutes les entreprises et pas seulement
leurs filiales,
filiales et sous-traitants. Et ça, c'est très important parce que ça concerne des millions de travailleurs. Voilà, dont les conditions de travail, on le sait, sont absolument déplorables dans le monde. Voilà, donc cette loi, alors, elle produit un plan de vigilance pour prévenir les risques d'atteinte aux droits humains et à l'environnement. Le problème, c'est que pour l'instant, donc il y a eu 2 ans d'application de la loi, on ne peut pas dire que, d'abord, toutes les entreprises concernées n'ont pas fait leur travail, et de deux, les résultats sont très faibles. C'est-à-dire que les plans qui existent sont insuffisants, insuffisamment documentés et ne répondent pas à la totalité du problème. Donc, c'est un premier pas qu'il faut saluer. On en parlera après. Je reviendrai sur le devoir de vigilance. Mais il faut aller plus loin. Voilà. Mais enfin, c'est une innovation importante en Europe.
Alors, vous avez apporté une musique, de quoi s'agit-il ?
La musique concerne Tahiti et la musique traditionnelle de Tahiti, si on peut en écouter un morceau.
Alors, après cette musique tahitienne, nous revenons à nos affaires oui. Concernant le collectif et ce moment actuel.
Oui, alors, deux éléments, deux campagnes auxquelles participe Éthique sur étiquette au niveau local, national et internationale. C'est, alors, la première concerne l'épidémie de Covid-19, dont on sait malheureusement qu'elle n'est pas du tout finie. Dès le mois d'avril, on a participé à une campagne qui dure toujours pour faire pression sur les gouvernements et sur les entreprises pour que ces entreprises et ces gouvernements fassent le nécessaire pour que les travailleurs et les entreprises locales du Sud, pénalisées par les mesures de confinement qui ont été prises, puissent continuer à subsister et continuer à ce que, notamment, les commandes soient honorées et que les salaires soient versés. Parce que on le voit en France, on le voit en Europe, mais dans le Sud, c'est encore pire. C'est-à-dire que les entreprises ferment, et là, il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas de salaire versé, c'est terminé. Vous vous retrouvez à la rue et vous n'avez plus rien. Donc, nous demandons à ce que les multinationales ne fassent pas peser sur leurs sous-traitants et leurs filiales le coût de cette pandémie, et qu'elles, à minima, c'est la demande minimale, qu'elles honorent leurs commandes, même si ces commandes ne sont pas elles-mêmes honorées, puisque à cause des mesures de confinement. Il faut savoir que dès qu'il y a eu les mesures de confinement, beaucoup d'entreprises ont annulé les commandes, brutalement. Sans considération pour les conséquences humaines et sociales de leurs actes. Donc nous demandons, alors nous avons réagi avec beaucoup d'autres, et en partenariat bien entendu avec les syndicats du Sud, et un certain nombre d'entreprises ont finalement accepté d'honorer leurs commandes, mais c'est pas le cas de toutes, hein. Donc il faut continuer à faire pression pour que ces grandes entreprises honorent leurs commandes, et nous demandons aussi au gouvernement de veiller à ce que les salaires soient versés, de veiller également à ce que des mesures médicales et de santé publique soient prises en compte, parce que dans ces pays-là, la protection sociale, sauf pour les riches, la protection sociale n'existe pas. Donc les gens se retrouvent à la rue et sans protection sociale. Et comment faire si on est malade? Il faut avoir un peu d'argent. Donc nous demandons à ce que les gouvernements mettent en place des mesures minimales de protection sociale. C'est vraiment une crise très très dure, on ne le sait pas assez ici, très très dure, qui se déroule dans beaucoup de pays du Sud. Voilà, donc ça, c'est une campagne internationale que nous menons, qui est malheureusement peu relayée au niveau médiatique, mais enfin qui est importante pour l'ensemble des travailleurs du Sud.
En effet, alors il y a une autre campagne qui vous préoccupe en ce moment.
Oui, alors c'est la campagne contre le travail forcé à l'égard de la population ouïghour. La région ouïghour, appelée Xinjiang par les Chinois. En réalité, ce mot Xinjiang veut dire la zone extrême, la zone de frontière. C'est la région Ouïghour, donc tout à fait à l'est, nord-est de la Chine. Cette région, on le sait maintenant depuis un certain nombre d'années, connaît de la répression à l'égard des opposants, connaît des emprisonnements massifs, connaît une colonisation humaine et culturelle par les Chinois, exactement ce qu'ils ont fait au Tibet, ils le refont dans le pays ouïghour.
Hein. Depuis 1949,
oui,
paraît-il.
Alors, depuis 1949, mais ça s'est surtout accéléré depuis une dizaine d'années. Hein. Donc il faut savoir aussi qu'à tout cela s'ajoute la stérilisation des femmes, dans un certain nombre de camps, des camps de rééducation, justement, et le travail forcé.
Forcé.
Voilà. Donc, le travail forcé, qui est naturellement proscrit par les conventions de l'OIT, et qui est utilisé massivement dans la région ouïghour par les Chinois.
Hein. Et donc, dans l'industrie textile, notamment.
Notamment dans l'industrie textile, puisque la région ouïghour est une des principales zones de production du coton dans le monde. Hein, à peu près, on estime à peu près que la région Ouïghour produit 20% du coton mondial. Ça veut dire qu'un vêtement sur cinq dans le monde vient du coton Ouïghour. Voilà. Donc, c'est dire l'importance. Alors, donc, ce travail forcé est absolument scandaleux. Et il y a une campagne maintenant également internationale auquel nous nous sommes joints concernant cette situation, notamment pour le travail forcé. Alors, il y a eu le 8 octobre, le collectif Éthique sur étiquette a organisé à Paris une conférence avec deux personnalités. La première, c'était elle s'appelle Dilnur Reyhan. Elle est présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe et aussi professeure à l'INALCO, l'Institut des langues orientales. Et puis aussi le député européen Raphaël Glucksmann. Alors, naturellement, cette conférence était animée par notre animatrice, notre coordinatrice nationale, Naïla Ajaltouni. Donc, de cette conférence, il ressort que, effectivement, la situation est catastrophique et que on voit bien que sans obligation contraignante, sans pression et sans engagement des gouvernements, la situation ne va pas évoluer, si tant est qu'elle puisse évoluer, parce qu'avec les Chinois, c'est pas facile. Donc, on participe à une campagne internationale pour que les entreprises, au moins, se désengagent du Xinjiang, de la région Ouïghour, et régulent leur chaîne de valeur, hein, pour que on ne puisse pas alimenter le travail forcé des travailleurs ouïghours. On demande également des sanctions ciblées contre les dirigeants, l'arrêt de ces camps de rééducation et de concentration, et l'arrêt de la stérilisation des femmes. Le mot génocide a été employé au cours de la conférence. On assiste à effectivement un génocide, il faut le dire.
Terrible de la natalité, oui, de toute cette zone.
Voilà, l'emprisonnement, toute cette situation absolument catastrophique qui a lieu là-bas et dont il faut que les Nations Unies, bien sûr, puissent s'emparer, mais on connaît la situation de l'ONU, c'est pas brillant. Voilà, donc on mise aussi sur les jeunes parce que il faut que les jeunes comprennent que acheter des t-shirts, des jeans, ça va à très bas prix. Eh bien, finalement, nous payons pas cher, mais qui paye le vrai coût, c'est les travailleurs au sud. Donc, en prenant conscience que on peut acheter un peu plus cher à condition que ça soit produit en France ou en Europe, eh bien, c'est meilleur pour l'environnement, c'est meilleur pour les droits humains, et il faut que tout cela puisse changer, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer longtemps comme ça.
Alors, dans cette conférence, il y a eu aussi l'intervention d'un député de Meurthe-et-Moselle, Dominique Potier, qui a été rapporteur, justement, de la loi sur la vigilance.
Oui, tout à fait. Et Dominique Potier, qui est un des piliers de la loi devoir de vigilance, avec qui on avait travaillé en amont pour préparer la loi, était présent et effectivement est intervenu. Et il a notamment indiqué qu'il a déposé un amendement à l'Assemblée nationale pour refuser de donner de l'argent.
Pas
de subvention publique pour les entreprises qui ne respectent pas la loi devoir de vigilance. Voilà. Donc, ça montre que la loi existe, mais il faut la faire respecter, il faut la faire appliquer, et que si on ne l'applique pas, eh bien, on s'expose à des sanctions. Or, c'est le volet un peu sanction de cette loi qui fait pour l'instant un peu défaut. Donc, à l'occasion du plan de relance et de tout l'argent qui est déversé, l'argent public qui est déversé sur les entreprises, cet amendement est tout à fait bienvenu pour dire qu'on ne peut pas continuer à donner de l'argent à des entreprises qui ne respectent pas la loi.
Oui, alors justement, la responsable, enfin la représentante de cette diaspora ouïghour qui prenait la parole a dit il suffit pas de faire des discours, de prononcer quelques paroles, comme ça a été fait par beaucoup de politiques. Il faut aller plus loin.
Et oui, et le problème, c'est bon, ça s'adresse directement aux gouvernants. Est-ce qu'ils vont aller porter ce message de manière frontale, directe, vis-à-vis des Chinois? C'est pas évident.
Il faut aller jusqu'au boycott pour elles.
Peut-être, oui, il faudrait aller jusqu'au boycott. Est-ce que nos gouvernements et nos entreprises aussi sont prêtes à aller au clash? Voilà, c'est le problème. Il y a un moment où il faut effectivement...
Un problème de courage politique.
Un problème de courage politique, il en faut. Et c'est, on verra ce qu'il en advient. Mais malheureusement, alors, l'exemple du Tibet montre que on s'est bien accommodé de la situation et que le génocide au Tibet continue.
On n'ose pas parler contre la Chine.
Voilà, c'est le nouveau, la nouvelle grande puissance mondiale qui va peut-être détrôner les États-Unis dans quelques temps et qui, à l'égard de qui on hésite à entrer en conflit. Ça peut s'expliquer, mais est-ce qu'on défend davantage les valeurs ou est-ce qu'on se limite au commerce et à la défense des entreprises?
Alors, curieusement, aux États-Unis, il y a eu quand même une action menée contre justement les chefs économiques de cette des Chinois qui font travailler
oui,
les Ouïghours.
Oui, il y a des sanctions ciblées, mais on s'aperçoit que bon, ben c'est pas suffisant. Quoi.
Mais il faudrait que les autres pays s'y mettent aussi.
Absolument, il y a plein de choses à faire, mais voilà, la
question,
la conclusion c'est la volonté politique.
Et la conclusion de cette
politique.
Conférence était quand même que c'est aussi la force de la pression publique qui doit faire bouger les choses.
La pression publique, c'est-à-dire celle des gouvernements et celle de la société civile,
voilà.
dont la nôtre. Bon, on espère que...
Les réseaux sociaux, notamment.
Il faut que les gens comprennent que, effectivement, prennent connaissance de la situation là-bas et disent c'est inacceptable. Mais ça prend du temps, la conscientisation.
Ça prend du temps et ça concerne évidemment aussi tous les syndicats.
Oui, il faudrait que les syndicats aussi, mais ils sont partie prenante et ils vont l'être de plus en plus dans l'action qu'on va mener à cet égard.
Alors cette actualité juridique aussi se pose en ce moment, puisque à l'ONU,
oui,
il y a à nouveau...
Oui, alors sur le devoir de vigilance, on peut dire que l'action, donc au niveau français, elle existe, mais on est en train de chercher à l'améliorer. On a parlé de l'amendement de Dominique Potier.
Notamment qu'il y ait des sanctions juridiques.
Oui, c'est ça. Oui, alors le volet sanctions juridiques est pour l'instant assez faible. Mais au moins, ce qu'on essaye de faire, c'est de diffuser cette loi, de la faire germer en Europe et également au niveau international. On sait qu'au niveau européen, un certain nombre de pays sont intéressés. Le Parlement européen s'en est saisi. Et actuellement, d'ailleurs, Raphaël Glucksmann, est député européen, est en charge aussi de cette affaire au niveau du Parlement européen. La Commission a annoncé qu'elle allait effectivement prendre une directive. Le tout, c'est de savoir quel en sera le contenu. Parce qu'il peut y avoir toutes sortes de directives et puis, in fine, le contenu n'est pas très contraignant. Donc, il faut savoir qu'au niveau européen, on est en train de construire cette directive ou de proposer cette directive. Ça pourrait être aussi un règlement... mais là, ça veut dire que là, c'est la Commission qui a la main et non plus le Parlement et les États. Bon, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est en train de bouger au niveau européen. Et, comme on le sait, depuis 2014, on l'avait déjà évoqué, il y a un projet de traité contraignant à l'ONU concernant l'activité des multinationales et le respect des droits humains. Donc,
c'est cela qu'il faut appuyer.
Voilà, c'est cela qu'il faut appuyer. Et pour ça, on a également une campagne au niveau des maires, pas seulement en France, mais également en Europe, pour que les maires soutiennent le projet de traité contraignant. Et on a écrit, et à Montpellier nous l'avons fait, nous avons écrit au maire de Montpellier, il y a une quinzaine de jours, pour l'instant il ne nous a pas répondu, on a écrit au maire de Béziers et de Sète, bon, ils ne nous ont pas répondu pour l'instant, on espère avoir un contact pour que ils puissent apporter officiellement leur soutien à cette démarche de projet de traité contraignant pour une meilleure régulation de la mondialisation.
Et justement, c'est très important en ce moment, puisque se tiendra la sixième session de négociation, oui, la semaine du 26 octobre.
Oui, c'est ça.
À l'ONU. Donc c'est très actuel.
C'est tout à fait actuel. Donc il faudrait que nous souhaitons vivement que les maires des grandes villes puissent apporter leur soutien pour, vous voyez, là encore, faire pression sur les décideurs et sur les négociateurs qui sont souvent encore un peu, y compris dans l'Union européenne, assez timorés vis-à-vis de ce projet de traité que la France soutient. Mais on aimerait que son soutien soit encore plus affirmé.
En effet, alors je dois dire à nos auditeurs qui peuvent déjà se mettre au courant pour les Ouïghours sur une petite vidéo très courte qui a été faite justement par le collectif de l'éthique sur l'étiquette et qu'ils trouveront sur YouTube.
Et on peut ajouter que la conférence sur les Ouïghours du 8 octobre est sur le site d'éthique sur étiquette au niveau national, www.éthique-sur-étiquette.org. Donc, si vous avez le temps, l'occasion d'écouter cette conférence, faites-le, elle est donc accessible en ligne.
Voilà, et elle est vraiment très convaincante.
Oui,
et c'est un scandale, au fond, que l'Europe n'ait pas encore agi sur ce plan.
Absolument.
Alors, je passe rapidement donc au calendrier. Tout d'abord, je commence par annoncer le départ d'un bus vendredi 16 octobre à 21h, lieu précisé à l'inscription, un bus de 50 personnes pour Paris qui va rejoindre la marche nationale solidaire des sans-papiers le 17 octobre à Paris. Il est affrété par les États généraux des migrations de Montpellier. L'arrivée à Paris se fera vers 9h et le retour départ de Paris le dimanche 18 octobre à 11h. L'aller-retour est à 70 euros, paiement à la montée du bus par chèque à l'ordre de la CIMAD. Mais avant, il faut que vous remplissiez un formulaire, notamment avec le besoin d'hébergement à Paris. Et il y a en soutien une cagnotte militante qui a été ouverte et qui permettra aux migrants et aux sans-papiers de participer à cette marche. Donc, vous trouvez tous les renseignements sur https://framacalque.org. Donc, je vous incite bien sûr, si vous le pouvez, à faire le déplacement ou à soutenir cette marche. Mardi 13 octobre, donc demain, au cinéma Diagonale à Montpellier à 18h, a lieu une projection débat du film documentaire « L'Apollon de Gaza » de Nicolas Wadimoff, en présence du réalisateur. Le débat est animé par l'association France-Palestine Solidarité dans le cadre de Bethléem, capitale de la culture arabe 2020. Vous le savez, il y avait beaucoup de choses qui avaient été programmées pour cet événement et qui ont été annulés à cause du Covid-19.
Oui.
Puis, je rappelle que le samedi 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Et de 15h à 22h, au plan Cabane à Montpellier, auront lieu des mini-débats, une conférence inversée, où les décideurs écoutent les habitants de la cité. L'après-midi est clôturé par un partage des réflexions recueillies pendant les débats et un repas festif aura lieu en soirée. C'est organisé par le collectif 17 octobre de Montpellier.
Je peux rajouter au calendrier que, en ce qui concerne éthique sur étiquette, il y a deux événements qui se préparent. Alors, est-ce qu'ils pourront avoir lieu à cause du Covid ? On ne sait pas. C'est une participation au Festival des Solidarités Festisol 2020. Donc nous avons en préparation une soirée débat consacrée à la relocalisation de l'économie et à ses conséquences pour le devenir de la solidarité internationale. Donc localisation, délocalisation, relocalisation, c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité. Et donc ça serait en principe le 25 novembre. Dans le cadre de Festisol. Et puis pour 2021, on espère pouvoir, avec la compagnie Chantier Public, faire une soirée théâtrale à partir d'un spectacle que cette compagnie Chantier Public, installée à Montpellier depuis un an ou deux, a préparé et qui est tout à fait en lien avec notre problématique à éthique sur étiquette.
Eh bien, merci Pierre Bourguet, merci au collectif de l'éthique sur l'étiquette. À bientôt, chers auditeurs.